le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Avec moi dans le studio, Josiane Djepeno, trésorière de l'association de la diaspora centrafricaine aux États-Unis, mère de 3 enfants, propriétaire d'un salon de coiffure dans la région de Washington et étudiante. Merci beaucoup, Josiane, d'être avec nous.
Merci beaucoup, Nathalie.
Alors, femme, études, famille et travail, c'est ce qui correspond à votre profil. Comment gérer autant d'activités, de responsabilités quand les journées sont si courtes? En tout cas, moi, je les trouve très courtes. Et surtout, pourquoi reprendre les études quand on a une vie si remplie et que l'on semble parfaitement épanoui, comme vous l'êtes, Josiane? Est-ce que les études, tout d'abord, font bon ménage avec la femme déjà très active et occupée que vous êtes? Est-ce que ça fonctionne bien?
Bien sûr, Nathalie, vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était pas facile. Ben, on gère. Il suffit de bien organiser. Tu t'organises bien, tu peux t'en sortir. Et comme dit les Américains, il faut faire un to-do list. Si tu fais tout ce que tu veux faire dans la journée, ton plan, si tu élabores ça, tu peux suivre ça normalement.
Alors le plan, est-ce qu'il est bien respecté à la lettre? Ou est-ce que parfois il y a des petites... C'est pas évident quand même.
C'est pas évident. Parfois il y a des petits décalages, ouais. mais quand tu y tiens, tu t'en sors.
Bon, la priorité c'est les enfants. Vous avez 3 enfants, deux filles, 2 grandes filles. Elles sont adolescentes, c'est ça? Et vous avez un petit garçon d'1 an.
Oui.
Petit garçon d'1 an. Donc vous faites même tout ça avec ce bébé. Avec ce bébé que pour travailler vous laissez à la garderie, n'est-ce pas?
Oui, oui, je le laisse à la garderie et sans oublier, mon mari m'aide aussi.
Oui.
Il le dépose le matin. Moi, je le dépose le matin, lui, il le prend le soir. Et le soir, mais tous mes cours sont... Je pars au cours que le soir, il est à la maison, il s'occupe des enfants le soir et moi, je pars à l'école. C'est une question d'organisation.
Alors, vous étiez, avant 2008, vous étiez à Bangui, en Centrafrique. Et là-bas aussi, vous aviez une vie très active. Vous aviez déjà un salon de coiffure là-bas. Et si l'on pouvait comparer un petit peu entre la vie que vous aviez à Bangui et la vie que vous avez aujourd'hui ici aux États-Unis, qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce qu'elle est bien différente ou est-ce qu'elle est tout aussi active? Quelles sont les particularités peut-être de la vie là-bas à Bangui et de cette vie que vous menez aujourd'hui?
Pour moi, je pense pas qu'il y a une très très grande différence parce que quand j'étais au pays, j'avais ma première fille. Je partais à l'école, je faisais mon stage et puis je m'occupe d'elle.
Donc vous étiez déjà étudiante aussi à cette époque-là.
Et
déjà maman et étudiante. Et
ouais. Maman, oui.
Quand mais là-bas, il y avait plus d'entourage qui pouvait vous soutenir.
Il y a plus d'entourage. Il y a ma famille qui sont là. Eux, ils me soutiennent.
Oui.
Et aussi mon mari.
Oui.
Et la différence qu'il y a entre la vie là-bas et ici, on a plus d'opportunités. Bien sûr, c'est pas facile de garder les enfants, mais on a des petites portes ouvertes. Par exemple, mon fils, j'ai réussi à avoir un voucher et qui m'aide à l'amener au daycare et je paye moitié et puis le gouvernement paye moitié.
Mais c'est quand même plus cher qu'en Afrique, faut le dire. Hein.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, c'est pas donné. On peut même préciser au passage qu'aux États-Unis, la maternelle publique n'existe pas. En tout cas, peut-être. Dans certains États, on commence un petit peu, mais c'est pareil pour ce qu'on appelle la crèche hein, dans les pays francophones.
Oui.
Ça coûte très très cher tout ça.
Et aussi, la différence qu'il y a ici, par exemple, au pays, les études, il y a trop de blocages. Mm-hmm. Par exemple, je faisais la BTS au pays, mais je payais de ma poche directement pour le faire. Et si tu n'as pas d'argent pour aller payer... Ça peut aussi te retarder avec les grèves, les mutineries, tout ça là. Ça peut te retarder. Mais ici, tu peux avoir l'aune, tu pars à l'école
et à faire des emprunts.
Et après, quand tu finis, tu travailles, tu peux payer.
Il faut rembourser après, les emprunts aussi.
Bien sûr, il faut rembourser.
C'est dans la presse.
Ici aux États-Unis, une femme, Latoya Cantrell, a été élue maire de la Nouvelle-Orléans. Une première en 300 ans d'histoire de la plus grande ville de Louisiane. Vainqueur d'un duel féminin, Madame Cantrell s'est largement imposée avec 60% des suffrages face à Désirée Charbonnet. Elle entre en fonction en mai 2018 et rejoint le club très restreint des femmes à la tête de grandes villes américaines. Une humoriste suédoise a annoncé la tenue prochaine du premier festival de musique sans hommes à Göteborg. Emma Knikare, je ne sais pas si je prononce correctement ce nom, a lancé ce projet après l'annulation de l'édition 2018 du festival de musique de Bravalla à la suite d'une série de plaintes pour agressions sexuelles lors des précédentes éditions. Voilà, ça c'est en Suède. Les autorités indiennes ont sanctionné des policiers à Bhopal pour n'avoir pas enregistré la plainte d'une jeune femme victime d'un viol. 3 inspecteurs ont été suspendus, un commissaire s'est vu retirer son affectation. Une étudiante de 19 ans était allée voir la police après avoir été violée par 4 hommes près de la gare. Selon sa famille, la police s'est moquée d'elle et de ses parents et les ont éconduits à plusieurs reprises. La famille a dû se rendre dans 3 commissariats avant que la plainte soit finalement enregistrée. 2 des agresseurs présumés ont été appréhendés par les parents eux-mêmes et un 3e par la police, tandis que le 4e est encore recherché. Josiane Gepeno, grand merci d'être avec nous dans Le Monde au féminin. Alors, vous avez parlé de l'avantage finalement de pouvoir faire des études. Certes, on les paye, mais on peut faire des emprunts ici aux États-Unis. Enfin, tout fonctionne en gros, c'est ça que vous vouliez dire. C'est que, Bon, à Bangui, en plus avec la situation à l'époque et surtout après, la rébellion, etc., une vie un petit peu instable, hein, rien n'est bien rassurant quand on doit aussi... Vous avez même parlé des grèves, hein, les grèves dans les universités, ça c'est récurrent. Dans la plupart des universités africaines, hein, des années blanches, il en passe et il en passe. Donc finalement, vous parlez de tout ce confort-là. Certes, on va rembourser l'emprunt, certes, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est un programme bien défini, c'est ça qui vous rassure finalement.
Bien sûr, c'est rassurant, c'est un programme bien déterminé. Et si tu tiens, tu vas t'en sortir. Quand tu finis, tu cherches un emploi, tu travailles, tu te bats, tu peux payer ça. Il y a un, comme on dit, un payment plan. So, tu peux payer petit et puis ça
petit
va finir.
Petit à petit. Yeah. Ouais. Et le type d'études que vous faites, c'est dans le business. Donc en fait, c'est pour un petit peu parfaire votre nouveau business. Vous avez créé ce salon de coiffure il y a un an environ et vous voulez peut-être justement vous élargir un petit peu, embaucher, c'est ça?
Oui. Je voulais bien rester dans le domaine de business parce que c'est ce que j'aime bien faire. Et c'est pour cela que je suis en train de faire business management et je compte faire grandir mon business.
Et vous sentez que vous avez bien la fibre au niveau commercial, oui?
Oui, très très bien. J'ai commencé depuis tout petit. Ouais. Comme j'étais à l'école primaire, je faisais les petits cacahuètes, je partais à l'école, je vends ça à mes camarades, c'est ça.
Et au niveau du business, votre salon de coiffure, c'est une vocation que vous aviez, c'est un choix vraiment délibéré, la coiffure, ou c'est par hasard?
Non, c'est pas par hasard. Vous savez, dans la vie, il faut faire ce que tu aimes. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu vas le faire, mais ça ne va pas aller.
C'est vrai.
En avant. Ouais. C'est ça. J'aime la coiffure, c'est ma passion et c'est ce que j'aime faire. Avant, je faisais des travaux, mais j'avais décidé de laisser et de faire ce que je veux. J'ai commencé toute petite parce qu'en Afrique, quand tu es adolescent, tu commences à faire des petits trucs et tu prends goût. C'est ça.
Parole de femme.
Un décret présidentiel du 20 octobre instaure un contrôle strict des tambours du Burundi, qui sont désormais interdits aux femmes. Alors décidément les pauvres femmes, alors que des groupes de femmes tambourinaires se sont formés ces dernières années. D'autre part, tous les groupes doivent se faire enregistrer au ministère de la Culture et ne pourront se produire en dehors des cérémonies officielles qu'avec une autorisation du ministre. Chaque groupe devra payer une redevance de 500 000 francs par représentation. Cette redevance devient journalière si le groupe va se produire à l'étranger. Notre correspondant Christophe Nkurunziza a tendu son micro à quelques femmes pour des réactions sur l'interdiction qui les concerne.
Toute femme qui a joué au tambour à l'école secondaire estime que ce décret présidentiel porte atteinte à l'égalité entre l'homme et la femme.
Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fois où on peut aimer le tambour. Par exemple, moi, je suis une femme et j'aime bien le tambour. Ce serait vraiment très difficile pour moi de comprendre que je ne dois pas le faire parce que je suis une fille, parce que je suis une femme. Il y a une discrimination basée sur le genre. Nous sommes dans un monde où il faut respecter les droits de tout un chacun, des hommes et des femmes. Et surtout dans un monde où il faut vraiment améliorer les conditions de vie des femmes. Pourquoi ne pas penser que ça aussi c'est une discrimination?
Cette autre femme affirme que le décret présidentiel est contraire à la Constitution.
De mon point de vue, je me dis que c'est une discrimination. Aujourd'hui, c'est la loi qui vient sur le tambour, mais je me dis que demain, il y a d'autres lois qui vont venir, qui vont aussi continuer à discriminer la femme burundaise. Alors que la Constitution burundaise stipule que nous sommes tous égaux devant la loi.
C'était un extrait du reportage de Christophe Nkurunziza sur les tambours burundais que vous pouvez retrouver sur voaafrique.com. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Josiane Djepeno. Josiane, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit il faut faire ce que l'on aime, il faut oser. Est-ce que vous avez pris des risques justement pour faire exactement ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez que vous avez pris des risques?
Oui, j'ai pris un risque. Parce que si tu veux faire quelque chose, il faut prendre le risque. J'ai pris le risque comme c'était mon rêve. Et le rêve là, j'ai dit je vais réaliser et puis j'ai pris ce risque. Il y a mes amis qui me disent ah tu es sûr que ça va marcher le business, tu es sûr? J'ai dit c'est un risque que je vais prendre. Mm-hmm. Et voilà, mais voilà maintenant en décembre je vais faire un an avoir mon propre salon à mon propre compte.
Et votre clientèle est particulièrement africaine-américaine, c'est ça?
Oui.
Pas beaucoup de la diaspora en fait?
Non, pas beaucoup de la diaspora, c'est africaine-américaine.
C'est par rapport au quartier peut-être où vous avez ouvert votre salon, la diaspora n'est peut-être pas aussi présente que ça, non?
Non, pour nous, dans la diaspora, la plupart des femmes se tressent.
Voilà.
Donc on se gère entre nous.
Ouais.
On se gère, si tu sais tresser, moi je sais tresser, tu fais ma tête, je fais ta tête.
Si jeunesse pouvait.
Dans certains camps de réfugiés soudanais de l'est du Tchad, des parents d'élèves refusent d'intégrer le curriculum tchadien, à l'exemple du camp d'Amnabak dans la région de Wadi Fira, où s'est rendu notre correspondant à l'occasion d'une mission gouvernementale visant à sensibiliser les familles sur l'intégration du système scolaire du pays. Le reportage d'André Kodmadjingar.
En 2015, nous avons fait le tour de tous les camps, mais si aujourd'hui on met assez de temps dans ce camp, c'est parce que ce camp n'a pas respecté à 100% ce programme.
C'est la chef de mission, Mme Bayro Togne Ramadi Suzanne, assistante auprès du conseiller à l'éducation nationale à la primature. Le camp d'Amnabak est le seul camp des réfugiés soudanais installé dans l'est du Tchad depuis 2003 qui a opposé résistance à l'intégration du système éducatif tchadien. Bamaï Mamadou, président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Tchad associé à cette mission, parle de l'importance de l'intégration de ce curriculum tchadien dans les écoles des camps des réfugiés soudanais.
S'ils n'appliquent pas le curriculum tchadien, ils n'auront pas la possibilité de faire avancer leurs enfants dans les études supérieures. Et Dieu merci, ils ont compris que c'était une erreur. Ailleurs, les réfugiés n'ont pas une certaine facilité que ici. Et le gouvernement tchadien et les humanitaires ont accordé à ces réfugiés. Donc, le curriculum tchadien leur sera un avantage parce que leurs enfants apprendront non seulement l'arabe, l'anglais qu'ils en ont et le français.
Des engagements et recommandations fermes ont été signés pour le respect strict de ce système dans cette école. Toutefois, la chef de mission, Mme Bayro Tognay Ramadi Suzanne, se dit optimiste quant à l'application de ses engagements.
Un adage dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc, ils ont pris des engagements et on promet revenir faire le suivi pour voir si cette décision est effectivement appliquée.
Pour encourager cette intégration, Chérif Youssouf Dogo, un élève qui a obtenu son baccalauréat avec mention bien dans un autre camp où l'intégration du système éducatif tchadien a été effective, est primé par les hautes autorités du pays. Il est classé parmi les 100 meilleurs élèves au niveau national et occupe le premier rang des réfugiés installés au Tchad ayant composé le baccalauréat tchadien. André Kodmadjingar, de retour de Iriba, dans la région de Wadi Fira, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Et si la jeunesse pouvait?
Josiane Djepeno, oui. Vous avez entendu ce reportage sur les jeunes réfugiés, les petits réfugiés, et quand on connaît un petit peu la situation, qui se retrouvent dans un univers complètement étranger et donc qui sont obligés effectivement d'apprendre même de nouvelles langues, d'apprendre une nouvelle vie, un nouveau cursus scolaire. À propos d'école, vous avez parlé de la formation que vous faites, mais on n'en sait pas beaucoup sur cette formation. C'est une formation sur 3 ans, c'est sur le business, c'est ça, sur 3 ans. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous apprenez concrètement à mener un business aux États-Unis? Est-ce que c'est avec toutes les lois, toutes les règles à respecter? Concrètement, si vous auriez 3 mots à dire sur cette formation, qu'est-ce que vous diriez?
L'étude que je fais actuellement, c'est un peu de tout sur le business. Comment gérer un business, comment aller avoir toutes les papiers, légalement, tout, ça englobe tout, quoi.
C'est compliqué, il faut passer vraiment par beaucoup de filières pour arriver à monter une affaire aux États-Unis assez importante.
Non, c'est pas trop compliqué. Ici, si tu veux faire quelque chose, c'est d'aller avoir la licence de cette chose-là et puis tu pars, tu t'enregistres, tu suis seulement les règles quand les procédures et puis tu t'en sors.
Mais vous avez déjà ce type de papier pour votre salon de coiffure, les licences et tout ce qui se
passe. Bien sûr, j'avais fait la licence de coiffure, qui m'a permis à ouvrir le salon et t'es ça. Mais mes études, ça c'est à part. Mais pour le salon, pour que j'obtienne un salon, j'étais partie, j'ai suivi les procédures à prendre.
Vous m'avez dit auparavant que vous vouliez éventuellement, pourquoi pas, installer une chaîne en Afrique ou autre, non? C'est pas ça?
Bien sûr, bien sûr, c'est ça mon rêve aussi, aider aussi mes sœurs au pays qui peuvent
créer
venir
des emplois là-bas.
Créer des emplois, voilà. Ouais.
Mais c'est un petit peu la même chose là-bas. On s'entraide, on se tresse les unes entre les autres, mais il n'y a peut-être pas autant ce business-là, finalement, qui est exploité, non?
Ouais. C'est pas vraiment, vraiment exploité comme on le dit, fait dans les quartiers, mais il faut exploiter ça.
Entre parenthèses.
Les cocottes de fabrication artisanale à base d'aluminium sont très populaires à Yaoundé, où les commandes abondent. Ainsi, des centaines de personnes s'activent au quotidien sur un site marécageux pour la fabrication des fameux ustensiles de cuisine. Notre correspondant Emmanuel Juntap a visité pour vous cet univers artisanal de la cocotte made in Cameroun. Voici un extrait de son reportage vidéo.
Le marché Mokolo à Yaoundé. Des cocottes en aluminium fabriquées localement sont exposées dans des entrepôts, avec parfois quelques touches de fantaisie des fabricants ingénieux. Les clients ne manquent pas, les femmes en raffolent. Même les plus âgés gardent des cocottes en aluminium made in Cameroun, de bons souvenirs culinaires.
J'aime les cocottes parce que ça ne se casse pas vite.
et ça cuit vite la nourriture.
Et combien connaissent les secrets de fabrication de cet ustensile de cuisine dans prison? Au lieu dit Mokolo au lobby à Yaoundé, de part et d'autre d'une allée répugnante, sur un site marécageux, sont implantés les ateliers de cocotte en aluminium, ateliers qui ne payent pas de mine. Depuis 7 ans, Gervais Romual et son équipe travaillent ici 6 jours sur 7, excepté le dimanche. C'est sur le tas que Gervais s'est fait former.
Pour faire une marmite, il faut payer de l'aluminium d'abord, pour venir avoir son pot, faire fondre l'aluminium à l'intérieur du pot. Lorsque l'aluminium a fondu, jusqu'à vous tous savez que c'est un degré qui peut déjà sortir l'épaisseur d'une petite marmite, on entre maintenant à l'intérieur. Et à l'intérieur, maintenant, il y a les moules, les marmites. On puise l'aluminium qui est chaud, on verse dans les moules. Et après quelques minutes, on décale, on sort la marmite.
Des moules à cocotte à même le sol, mais aussi de la terre mélangée à de la poussière, utilisée pour donner la forme voulue au couvercle et marmite en fabrication à l'aide de matériel quasi rudimentaire.
La louche, le tuyau, une paire de chaussettes pour mettre la poudre, et un tampon pour donner le décor au couvercle et la bague.
Pour fabriquer une cocotte, le jeune homme doit utiliser toute sa force musculaire et le résultat est toujours satisfaisant. Une cocotte peut sortir du moule. La prochaine étape se déroule non loin de son atelier. Elle consiste aux finitions. Limer et lisser la cocotte.
Et oui, on vous a mis l'eau à la bouche dans cet extrait vidéo d'Emmanuel Zultap. Alors si vous souhaitez savoir comment lisser la cocotte, rendez-vous sur voafrique.com pour apprécier le reportage en images. Alors Josiane, avant qu'on se quitte, vous vouliez parler notamment du Noël que vous organisez peut-être tous les ans, je ne sais pas, à Sewa, à l'association des Centrafricains donc aux États-Unis. Donc vous voulez dire un petit mot là-dessus, mais après je voudrais vous demander de nous donner un petit peu des conseils.
Okay. L'association Sewa organise l'arbre de Noël pour les enfants et c'est la première fois qu'on le fait parce que depuis on ne fait que penser au pays et on doit aussi penser à nos enfants pour cette année. C'est pour cela qu'on a organisé l'arbre de Noël le 22 décembre pour donner des petits cadeaux aux enfants. Ouais. Et le conseil que je voulais donner...
Voilà, aux dames qui pourraient vous écouter, qui voudraient poursuivre leurs rêves comme vous.
Oui, conseil que je vais donner, si tu as un objectif, si tu fixes un objectif, tu vas l'atteindre. Et il faut prendre des risques dans la vie. Si tu ne prends pas de risques, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas rien faire. Et il faut être forte, même si tu fais quelque chose aujourd'hui, ça ne marche pas, il ne faut pas baisser les bras.
Et si on a très peu de moyens pour vraiment parvenir à réaliser nos rêves, moyens matériels, tout simplement, on s'adresse à l'Afrique ici par exemple, on fait appel aux autres, il faut oser demander l'aide des autres, le soutien des autres.
Bien sûr, comme on dit, il y a un adage qui dit un seul bras ne peut rien faire. Si tout le monde se regroupe, on peut faire quelque chose. Mm-hmm. Si tu as un projet, si tu sais que tu ne peux pas réaliser toi seul, il faut s'accrocher à quelqu'un. Peut-être ton rêve là va se réaliser.
Josiane Djepenou, un grand merci d'avoir participé à cette émission Le Monde au Féminin. Un grand merci également à Josèle Morissin à la production et à Wagner Robert également à la production et bien sûr à nos très chers auditeurs, nos très chères auditrices. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.